les pacifistes sont-ils devenus inaudibles ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. L'histoire retiendra-t-elle le général Pierre de Villiers comme l'homme ayant sacrifié sa carrière au service des armées françaises ? On s'en souvient, le mois dernier, après une confrontation pour le moins médiatisée avec le président de la République, l'ancien chef d'état-major des armées donnait sa démission. L'enjeu, 850 millions d'euros de coupes budgétaires pour la défense, inacceptable pour le général qui plaidait au contraire pour une augmentation des moyens. Alors présenté comme un bras de fer entre les deux hommes, voire comme un test de loyauté, le débat aura finalement très peu porté sur le fond de l'affaire, les moyens et donc l'importance donnée à l'armée dans notre société. Il fut un temps où la question se posait à l'inverse, faut-il supprimer le ministère de la Défense ? Courant de pensée minoritaire, certes, et jusqu'au boutiste, mais qui savait se faire entendre, mobilisation contre les essais nucléaires, contre les euromissiles ou encore contre les camps militaires dans le Larzac. Dans les années 80, pacifisme et antimilitarisme allaient de pair. Alors que reste-t-il aujourd'hui de cette idée que s'engager pour la paix, c'est d'abord faire la guerre à la guerre ? Les pacifistes sont-ils devenus inaudibles ? Eh bien, c'est le débat que nous aurons ce soir et ils sont trois invités pour en discuter. Jacques Semelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po, auteur notamment de « La non-violence expliquée à mes filles » paru aux éditions du Seuil en 2000. Et puis « Sans armes face à Hitler, la résistance civile en Europe 1939-1945 » aux éditions Payot 1998. Je ne cite pas tout, mais on trouvera d'autres références sur notre site internet. À vos côtés pour discuter ce soir, Jean-Marie Muller, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et membre fondateur du Mouvement pour une alternative non violente. Vous êtes l'auteur, vous notamment, de « Libérer la France des armes nucléaires » aux éditions La Chronique sociale parue en 2014. Et puis aussi du « Dictionnaire de la non-violence » aux éditions La Vérité en 2014. Également, et puis troisième invité ce soir, Edith Boulanger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau national du Mouvement pour la paix. Le Mouvement pour la paix, c'est de la paix. C'est une ONG qui milite pour la paix.
Et oui. Depuis 1948. Oui.
Et qui, elle, pour le coup, se revendique du terme de pacifisme. Alors, je voulais justement commencer cette discussion par cela. Quand on a préparé l'émission, vous nous avez dit, les uns les autres, que le terme pacifisme, aujourd'hui, n'était peut-être plus forcément adapté pour parler des militants de la paix. Jean-Marie Muller, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous gêne dans le terme pacifiste ? Pourquoi est-ce que vous ne revendiquez pas ? C'est en tout cas ce que vous nous avez dit.
Tout à fait. Ben, je crois que le mot pacifisme est de ces termes en isme qui, finalement, suggère une déformation, comme l'intellectualisme, etc. Le pacifisme, ça laisse entendre qu'on veut la paix à tout prix. Or, je crois qu'il y a là, en effet, un simplisme qui n'est pas réaliste. Donc, personnellement, en effet, je ne me revendique pas du pacifisme, sans pour autant m'inscrire en faux contre les mouvements qui s'intitulent tels. Bon. Alors, c'est vrai que je préfère le mot de non-violence, qui lui aussi pose problème. Mais nous avons, par exemple, l'œuvre d'un Gandhi, qui a abordé toutes les questions liées à la non-violence, Martin Luther King également, et je crois qu'il est essentiel pour notre culture de nous relier aux intuitions de Gandhi sur la non-violence.
Alors, pour bien comprendre, quand vous dites ce qui pose problème, c'est le isme, c'est le côté vouloir la paix à tout prix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourrait vouloir la paix au détriment de...
Ça voudrait dire
accepter des situations d'oppression et de... Ça veut dire quoi, Jacques Semelin ? Que la guerre, des fois, est préférable à la paix quand la situation, quand la justice n'est pas assurée sur un territoire.
Oui, c'est un débat qui se pose bien entendu et qui a traversé aussi les mouvements de paix, puisque bon, par exemple, pour le mouvement de la paix 1948, c'était quand même impulsé à l'époque par Moscou, par l'ancienne Union soviétique. Donc il faut quand même regarder à travers les lignes qui parle de paix et dans quel but, si vous voulez. Je crois que c'est important de distinguer, effectivement, comme le fait Jean-Marie Muller, pacifisme et non-violence. Pacifisme, aujourd'hui, c'est un mot qui paraît désuet, hein, et même très péjoratif. Très, très préjoratif. Encore qu'en anglais, il faut quand même garder l'idée que pacifisme ou pacifiste est plus positif que dans notre langue. Alors, est-ce que c'est l'héritage de Munich? Les Anglais aussi l'héritage de Munich, mais il faut bien aussi avoir en tête que, en France, l'héritage du pacifisme, c'est aussi les accords de Munich. Donc, il y a tout un contexte compliqué et en fait critiquable. De l'autre côté, le mot non-violence, est-ce qu'il est encore prononcé aujourd'hui? Voyez, alors on a les icônes, on a Gandhi, on a Martin Luther King, on a Mandela, même s'il a prêché à un moment la lutte armée, mais ce sont des figures du XXe siècle, quoi. Comme si elles n'avaient plus rien à nous dire aujourd'hui. Donc, il faut s'interroger sur la difficulté à utiliser ces termes aujourd'hui, y compris vous, les journalistes. Simplement, peut-être, il n'y a pas des acteurs qui... Peut-être faut-il mieux parler de mouvement de la paix ou des acteurs de paix, voyez, plutôt que de prendre le mot pacifiste. Et puis, il faut s'interroger sur le contexte, c'est-à-dire quand on raisonne sur les grands mouvements pacifistes, hein, ou mouvements de paix, ils étaient toujours marqués par la bipolarisation. Jaurès, on commémore
son assassinat,
eh bien, c'était France-Allemagne, bien sûr. Après, dans les années 30, c'était encore France-Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, ça a été la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc, on était toujours dans une polarisation. Le mouvement de paix des années 1980, Pershing contre SS-20, on est encore dans une polarisation. Alors, on n'a plus cette polarisation-là. On n'a que le terrorisme, entre guillemets, qui est dispersé. Donc, ça rend difficile la construction d'un mouvement de paix puissant dans le contexte qui est le nôtre.
Alors, on va revenir sur les héritages complexes historiques des mouvements pro-paix, notamment en France. Edith Boulanger, pour finir ce tour de table, vous, donc, je rappelle, vous êtes membre du Bureau national du mouvement de la paix. Est-ce que le terme pacifiste vous convient? Est-ce que vous vous en revendiquez?
Pourquoi pas? Pacifisme, oui, c'est toujours d'actualité, mais en mettant une autre notion de la paix. Effectivement, on préfère dire maintenant acteur de paix parce qu'on agit. Et on veut promouvoir, depuis 2000, on fait la promotion de la culture de la paix. Et donc, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Et justement, dans les mouvements antérieurs, c'était deux blocs, effectivement, qui se heurtaient. Et on était... c'était contre quelque chose, toujours. Maintenant, en fait, la paix, c'est plutôt l'action pour obtenir la prévention des conflits. Donc, on met l'accent sur la prévention des conflits. Donc, les 8 domaines d'action de la culture de paix, c'est ça que l'on veut faire connaître, médiatiser. Et donc, effectivement, le terme pacifiste, ça peut être idéologique, ça peut être hors sol, alors que nous sommes de terrain.
Alors, il y a le côté hors sol, mais sur ce que disait Jean-Marie Muller à l'instant, l'idée que le pacifisme implique qu'on se concentre sur avoir la paix à tout prix...
Non, c'est pas à tout prix.
Pour vous, c'est pas à tout prix, la
non,
paix.
Non, parce que les moyens sont pas agissent sur la fin. Donc, c'est pas l'histoire des justes, non. Le terrorisme, par exemple, n'est-ce pas? C'est pas avec n'importe quel moyen. Je vais à l'extrême. Mais donc, non. Il y a la démarche. La paix, c'est une démarche, un processus. Ce n'est pas un état. Donc, n'importe quel moyen ne sont pas bons. C'est pas à tout prix.
Jean-Marie Muller, vous dites aussi que le pacifisme, c'est une posture morale dont il faudrait sortir. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de l'histoire, notamment à la sortie de la guerre de 14-18, où cette posture morale, ce sursaut de dire on dit non à la guerre à tout prix, guerre à la guerre, ça n'a pas été aussi salvateur à un moment dans l'histoire de se positionner ainsi?
Ah, mais je pense que la dimension morale est essentielle à l'action politique. Et notamment, ce qui concerne la violence, donc la guerre et la paix, bien sûr. Moi, je me revendique d'une posture morale. Et d'ailleurs, la non-violence, elle est aussi fondée sur une morale. Vous évoquez en effet tout de suite le problème de la fin des moyens. Je crois que c'est essentiel. C'est que précisément, il faut récuser ce que nous dit l'idéologie dominante, que finalement, la fin justifie les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fin juste justifierait les moyens injustes. Que la paix, qui est forcément une fin juste, justifierait les moyens de la violence. Or, je crois que justement, il y a une contradiction radicale entre les moyens de la violence et la finalité de la paix. Donc, rechercher des moyens justes, rechercher des moyens non violents. Je crois que, oui, on parlait du terrorisme tout à l'heure, mais la guerre contre le terrorisme suscite des violences intolérables. Je pense à la ville d'Alep. J'ai eu l'occasion de séjourner à Alep au cours d'un séjour en Syrie où j'étais invité pour parler de la non-violence. Quand on voit quelques images de télévision de la ville d'Alep, ça vous donne le vertige. C'est destruction sur destruction. Et puis, il faut voir aussi toutes les victimes humaines, les enfants notamment. Bon, alors nous, on se plaint de lorsqu'il y a une grève à Montparnasse, mais bon, tout ça, ça devient dérisoire. Et je crois qu'on n'a pas conscience suffisamment des contradictions de la violence et de la guerre qui sont des facteurs d'injustice tout à fait radicaux.
C'est-à-dire que vous récusez tout à fait l'idée de la guerre juste, ce concept qu'on a entendu énormément, notamment en 2003, au moment de la guerre en Irak.
La guerre n'est jamais juste, les moyens ne sont jamais justes. La finalité de la guerre peut être juste, il s'agit en effet de combattre une situation d'injustice, mais les moyens de la guerre ne peuvent pas être justes.
Jacques Semelin.
Oui, ben là, on aurait tout un débat entre nous, puisque par exemple, à un moment de l'affaire du Kosovo, moi j'étais de ceux qui étaient pour l'intervention, tout en étant proche du mouvement non-violent. Donc il y a évidemment des nuances politiques dans l'appréciation des objectifs dans le contexte d'une époque. Mais je voudrais reprendre ce que vous disiez sur l'après 14-18. Je pense que si notre pays a connu vraiment un état d'esprit pacifiste, c'est justement après la Première Guerre mondiale, au moins dans les 10 années qui vont suivre. Vous avez des monuments aux morts à la paix.
Alors, ils sont très rares en France, effectivement. Mais il y en a 4 ou 5.
Oui, il en existe. Et puis, les poilus disent c'est la dère des dères. Enfin, c'est très fort. C'est mon collègue Antoine Prost qui a travaillé sur cela. Voyez. Et puis après, bon, ben, bien sûr, il y a la montée de l'hitlérisme. Et tout ça va être déstabilisé, en quelque sorte, dans les esprits.
Alors, c'est intéressant que vous citiez justement ces monuments à la guerre pacifiste, où on peut voir inscrit guerre à la guerre, effectivement, la dère des dères. En France, donc, ils sont très peu nombreux, étant donné le nombre de monuments qu'on a à la guerre. Est-ce que, en France en particulier, le pacifisme, c'est compliqué à faire accepter, traîne comme ça une réputation difficile et chez les gouvernants et aussi chez la population?
Certainement, mais je pense que là encore, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est Munich. C'est Munich, si le pacifisme a perdu toutes ses lettres de noblesse, ce sont les accords de Munich de 1938. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que Gandhi, qui était déjà une vedette internationale, n'est-ce pas ? Il avait organisé sa marche du sel en 1930, qu'il avait portée vraiment comme une grande figure internationale avec l'idée de l'indépendance. Il a condamné les accords de Munich. Il a dit que c'était le triomphe de la violence. Donc pour lui, à l'autre bout du monde, il considérait que ça ne faisait que retarder la guerre. Donc là, on voit bien, encore une fois, une différence entre une approche pacifiste et une approche non-violente. Et pour revenir encore sur cet état d'esprit en France chez des courants de poilus quand même qui sont quand même, alors ça s'exprime pas beaucoup dans les monuments aux morts mais c'est quand même tout un courant, ils parlent de plus jamais la guerre, voyez, plus jamais la guerre, plus, et moi travaillant sur le génocide, on entend dire plus jamais ça, voyez, c'est il y a une sorte de filiation. C'est-à-dire un rejet.
En parlant de filiation, justement, Edith Boulanger, est-ce que le mouvement de la paix aujourd'hui s'inscrit dans cette filiation du sursaut de la fin de 14-18 et puis se remonte un petit peu avant même à la mobilisation de gens comme Jean Jaurès, dont, je rappelais, le 31 juillet, on commémorait le 103e anniversaire de son assassinat.
Oui, et je trouve justement qu'on ne l'a pas beaucoup commémoré assez officiellement. Il n'y a pas eu beaucoup de manifestations et de médiatisation, alors que Jean Jaurès était quand même un pacifiste, on peut le dire.
Et comment vous l'expliquez ça ? Que cet héritage se soit un peu dilué, un peu perdu ?
Je pense que l'héritage ne s'est pas dilué. C'est la médiatisation qui n'est pas faite.
Il n'y a pas eu non plus de grande mobilisation des acteurs, des militants.
Il y a eu devant le croissant quelques personnes, effectivement.
Devant le café du croissant, oui, où il a été assassiné.
Donc c'est pas relayé. Le problème, c'est justement, on va peut-être en parler, pourquoi ne sommes-nous pas audibles ? Alors que je pense que la paix touche un maximum de personnes. Et je pense qu'il faut faire prendre conscience que la paix touche les domaines. Parce qu'on dit la guerre, on parle même de guerre humanitaire. C'est horrible, n'est-ce pas ? Mais il existe une guerre sociale, une guerre économique. Quand même, le nombre de morts par an dans le monde, c'est quand même dû aux accidents du travail et aux conséquences des accidents du travail. C'est le BIT qui le dit, c'est le Bureau international du travail qui le dit. Ce n'est pas les morts par conflit. Donc, il faut faire prendre conscience que la paix ne touche pas seulement les guerres, les conflits, mais aussi tout un pan de la société, à savoir le droit au travail, le droit au logement, le droit à l'éducation, etc., dans le monde entier.
Vous voulez dire qu'il faut lier le combat pour la paix à d'autres causes ?
Ah, oui.
Le développement, comme vous le disiez, l'antidiscrimination. Oui. Le mouvement pour la paix ne peut pas être un mouvement en lui-même ?
Si, non, d'ailleurs, il essaye d'avoir de plus en plus de partenaires, de rentrer dans des collectifs, parce que c'est important qu'on s'unisse, parce qu'effectivement, il touche plein de les 8 domaines d'action de la culture de paix. Le premier domaine, c'est l'éducation. Si on ne part pas de l'éducation à la paix, eh bien, on est reparti pour des conflits les conflits, à notre avis, ne sont jamais, jamais résolus durablement par une action militaire. Même si, de façon ponctuelle, ça peut être résolu et de temps en temps, il faut utiliser la force des casques bleus, par exemple, mais durablement, on rend le vaincu humilié, et souvent on humilie, et Bertrand Badil dit très bien, l'humiliation des peuples vaincus amène de nouvelles guerres. Donc, l'éducation, c'est le premier domaine. Le deuxième, c'est le développement durable. Parce que, effectivement, si on a faim, si on n'a pas de travail, etc., eh bien, on ne peut pas vivre en paix, même sur son sol, même dans un pays où il n'y a pas l'état de guerre.
Vous parlez justement de culture de la paix, c'est un mot qui revient souvent. Est-ce que ça veut dire, et est-ce que Jean-Marie Muller, vous serez peut-être d'accord avec ça, que la priorité aujourd'hui pour la paix, c'est de travailler au niveau des individus et peut-être moins au niveau politique international ?
Je crois qu'on ne peut pas séparer les domaines, si vous voulez. Je crois que la paix est à la fois au niveau interpersonnel, au niveau social et politique, et au niveau international. Et on ne peut pas, je crois, faire des frontières entre ces différents domaines. Je crois que ce qui est grave, c'est que précisément l'idéologie dominante qui structure l'idéologie de nos sociétés, c'est une idéologie de la violence, finalement, nécessaire, juste et honorable, en quelque sorte. Et cela se retrouve aussi dans l'éducation. Les petits-enfants, on leur dit « ne te laisse pas faire, bats-toi ». Ça risque de dire utiliser de la violence aussi. Je crois que, là encore, Gandhi fait une distinction entre lorsqu'il dit que si le choix n'était qu'entre la violence et la lâcheté, mieux vaudrait choisir la violence. Et c'est très concret pour lui par rapport à ceux qui seraient tentés de se résigner à l'oppression britannique. Il préfère ceux qui se battent, y compris par la violence. Donc, véritablement, récuser cette alternative et toujours choisir, donner ses chances à la non-violence, essayer la non-violence pour pouvoir justement éviter les pièges de la violence.
Jacques Semelin, la non-violence est aussi un terme dont vous nous disiez que vous vous sentiez plus proche que celui de pacifisme. Pourquoi ?
Ben, si vous voulez, pour aller vite, le pacifisme, c'est, on va dire, c'est une idéologie qui cherche à supprimer la guerre ou à supprimer les armées ou les défenses militaires pour construire la paix, pour défendre la paix. Mais il y a tout l'autre aspect que vous venez d'évoquer, madame, qui relèverait de ce qu'on appellerait la peace research, et je souscris. Hein. Tandis que la non-violence, on peut dire que c'est bon, soit une idéologie, soit une doctrine de l'action, qui consiste à vouloir résoudre les conflits sans recourir à la violence. C'est pas la même chose. Et c'est là où ça offre une perspective intéressante, si vous voulez, pour notre débat, parce que si on raisonne en termes de mouvement de paix, moi j'ai pensé, avant de venir à cette émission, il me semble que le grand mouvement de paix de masse que nous avons connu en Europe occidentale, c'est au moment de l'intervention militaire en Irak. Hein, je crois que c'est là où il y a une énorme mobilisation en Angleterre, aux États-Unis, en Europe, etc. Et pour une fois, cette cause était parfaitement juste et légitime, parce qu'on sait les dégâts catastrophiques qui ont résulté de l'intervention américaine en Irak. C'est pas la peine d'y revenir. Mais tout ça semble fini parce que cette polarisation a disparu. Les armes nucléaires, elles existent encore, mais elles se font bien discrètes, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas de mouvement de masse pour dénoncer les armes nucléaires. Mais en revanche, vous avez des acteurs de paix, vous avez des acteurs de non-violence. Et nombre de jeunes sont engagés dans ces mouvements. Alors, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la médiation, dans le domaine des ONG, moi j'en ai souvent dans mes cours à Sciences Po, qui vont ensuite travailler en Afrique, en Asie, etc. Et qui, vous avez des ONG qui travaillent dans les médias, justement, pour la réconciliation. Il y a toute une diversité, toute une richesse des acteurs de paix à l'échelle internationale qui est sous-estimée, on va dire, peu visible, mais en tout cas importante. Et puis, puisqu'on parlait du terrorisme, quand même...
Alors, Jacques Semelin, je vous coupe un instant parce que vous nous rappeliez quelques grandes mobilisations qu'il y a pu avoir dans l'histoire. Je voulais justement vous faire écouter une archive de 1982.
Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, vraisemblablement 200 000, à avoir répondu à l'appel des 100. 100 personnalités qui avaient lancé ces derniers jours un cri d'alarme contre la course aux armements. Et les événements du Liban et des Malouines montrent bien l'urgence du problème. Comme ils l'écrivent dans leur manifeste, l'équivalent d'un million de bombes d'Hiroshima existe déjà. Et l'arsenal nucléaire ne cesse de s'accroître. Chacun d'entre nous est concerné car il s'agit de la paix, de la sécurité, de la vie même des peuples.
Nous avons vu la force des marches de la paix aux États-Unis. Voyons pas pourquoi une marche organisée en France n'alerterait pas les gouvernements autant qu'ailleurs.
Cette marche pour la paix, reportage de TF1 le 20 juin 82, on entendait notamment sur la fin l'écrivaine Edmonde Charleroux. Marche pour la paix, 200 000 personnes en France, c'était au cœur de la crise des euromissiles, les SS-20 soviétiques contre les Pershing américains. Est-ce qu'il était plus facile dans les années 80, Edith Boulanger, de mobiliser les gens sur de telles marches, des marches pour la paix, et pourquoi moins aujourd'hui?
Ah, certainement, c'était plus facile. La preuve, il y avait 200 000. Nous, l'année dernière, on a fait une marche pour la paix en France. On a eu quand même, dans 23 régions de France, on était étonnés du succès de ces marches. À Paris, ce n'était que 2 000, mais qu'est-ce qu'on était contents? Parce que il y avait dans cette marche beaucoup d'associations qui sont venues, qui n'étaient pas forcément d'accord dans tous les domaines avec nous, mais qui sont venues avec nous. On a créé un collectif En Marche pour la Paix à cette occasion, collectif qui perdure, et on a écrit justement ensemble, avec une trentaine d'organisations, et 100 ont appelé à l'appel pour En Marche pour la Paix, et ont créé ce livre, édité ce livre, Livre Blanc pour la Paix, je vais vous en offrir
un. Je ne l'ai pas
un.
Cité tout à l'heure, je le citerai, reciterai à la fin de l'émission.
Voilà, et donc c'est un franc succès, parce qu'on est déjà à la troisième édition, alors qu'on l'a vendu en avril.
Alors, 2017. Alors, c'est pas pour ternir le succès, mais effectivement, sur cette comparaison avec les années 80, tout de même, cette différence de mobilisation, comment vous l'expliquez?
Alors, justement, moi, je voudrais vous poser des questions, journalistes, parce que pourquoi? On a parlé des armes nucléaires, n'est-ce pas? Et vous avez dit, monsieur, que pour les armes nucléaires, on n'en parle pas. Ça n'existe plus, le combat contre les armes nucléaires.
il y a un combat contre les armes nucléaires, là. Oui, et il y a une victoire. C'est une victoire, ne la boudons pas. Même si c'est un 122 pays seulement l'ont signé, 122 pays seulement, je dis seulement.
Alors, mais vous parlez donc du texte qui a été adopté à l'ONU le 7 juillet, un texte qui, enfin, un traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Alors, quand je dis adopté, ça ne veut pas dire qu'il entrera en vigueur. Hein. Pour
non,
ça, il faut que 50 pays l'adoptent.
Voilà,
pays. C'est un texte qui a pour vocation de mettre les armes nucléaires hors la loi, hein, au même titre que les armes chimiques et biologiques, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est un texte donc très ambitieux, puisqu'on peut imaginer que les pays possédant la bombe nucléaire ne vont pas tout faire pour qu'il ne soit adopté. Mais c'est une victoire quand même.
Ah oui. Bien sûr.
Oui, moi, je suis très, très réservé quand même par rapport à cette question, parce que on sait depuis toujours que les États non dotés contestent l'armement nucléaire des États dotés. Bon. Il n'y a que 122 sur 193 qui ont cautionné ce traité, ce qui est finalement très peu. Et M. Macron a récusé radicalement et aussitôt ces traités d'interdiction.
5 minutes après, il a écrit.
Donc,
pour dire que c'était inadapté.
Ça ne va rien changer, finalement, au niveau de la situation internationale. L'investissement de M. Macron est tout de même assez étonnant. Ces deux grandes manifestations, c'est d'une part d'aller dans un sous-marin nucléaire, et il s'est pas rendu compte qu'en s'enfermant dans un sous-marin nucléaire, il devenait prisonnier du monde ancien que par ailleurs il prétend combattre. Bon, s'il y a un symbole du monde ancien qu'il faut récuser, c'est l'armement nucléaire qui a été mis en place au moment de la guerre froide, mais qui actuellement ne peut résoudre aucun conflit. Les milliers, les millions de morts qui seraient la conséquence de toute utilisation des armes nucléaires dissuade le décideur. La dissuasion se retourne contre le décideur. Jamais M. Macron ne va pouvoir non seulement mettre en œuvre l'arme nucléaire, mais mettre en œuvre la menace de l'arme nucléaire. Et c'est vrai que là, finalement, il y a une espèce de consensus politique. Plus aucun homme politique ne conteste l'arme nucléaire. Pendant très longtemps, la gauche a récusé l'arme nucléaire. Les écologistes sont tout à fait silencieux aussi actuellement. Je ne sais pas si on a un ministre de l'écologie, on a un ministre de l'État. Je ne suis pas sûr qu'il soit ministre de l'écologie. Il devrait être le premier à refuser. Ce sont des milliards. Alors, on veut faire des économies de bout de chandelle, j'allais dire, dans les dépenses publiques, et on dépend des milliards. Vous avez rappelé, c'était seulement 180 millions que demandait le général de Villiers. On va vers 6 milliards par an aux années 20 pour l'armement nucléaire. Il y a une espèce de gaspillage absolu. Et effectivement, malheureusement, cela se fait dans l'indifférence générale.
Edith Boulanger.
Oui, justement, ma question. Pourquoi on n'en a pas parlé dans la presse, ou si peu, de ce traité?
Alors, on parle ce soir des militants pour la paix.
Donc, je vous en remercie. Mais je trouve quand même qu'il y a une avancée, parce que même si un traité n'est pas signé par différents États, il se trouve qu'il a des conséquences quand même sur les autres États. Ça s'est vu pour, par exemple, le traité contre les armes chimiques, n'est-ce pas? Il a été signé. Eh bien, il a été utilisé plusieurs fois en Turquie, en Syrie. L'arme chimique a été utilisée. Ça a fait quand même un tollé général, et tant mieux. Donc, on en a parlé. Même s'il est en frein, on en parle. Et du coup, on hésite quand même à l'utiliser. Même si je trouve que l'arme, le général Lenne dit que c'est une arme pathologique. C'est même pas une arme, puisqu'elle est de non-emploi. Mais moi, je vous invite à signer la pétition du mouvement de la paix, parce que effectivement, le budget des armes de l'arsenal nucléaire français va doubler en 10 ans. Donc, il passe de 3,5 milliards à 6 milliards. Donc, ce n'est pas rien. Au temps où il y a l'austérité. Et je trouve aussi que ce qui est important quand même dans la démarche contre les armes nucléaires, c'est qu'on parle enfin des conséquences humanitaires et environnementales qu'aurait une explosion atomique. Allez voir un préfet, demandez-lui quelles sont les mesures de protection prises par le gouvernement. Il n'y en a pas, parce qu'on ne sait pas. Il n'y en a pas, c'est pas possible. La planète explose et il y a des conséquences dramatiques. Et aussi, grâce à la COP21, on a aussi parlé des conséquences humanitaires et environnementales. de toute militarisation. L'entraînement, les dépenses, le budget de l'armée, même s'il est en stagnation, c'est quand même au détriment des autres budgets de santé, d'éducation, etc.
Jean-Marie Muller, vous aviez l'air très sceptique sur l'idée qu'un tel projet de texte à l'ONU, bien que adopté là donc le 7 juillet, puisse avoir une chance d'entrer en vigueur et que ça change quelque chose. Mais est-ce que finalement c'est pas le propre des combats pour la paix, c'est-à-dire se fixer des objectifs peut-être a priori inatteignables, mais d'y aller quand même?
Mais c'est-à-dire, encore une fois, là, ne sont concernés que les États non dotés. Donc les États dotés, eux, non seulement maintiennent, mais modernisent. Tous les États dotés, les États-Unis, la Russie, la France elle-même, on vient de le rappeler. Donc on va vers une aggravation de la course aux armements nucléaires, et le traité, à mon avis, n'aura pas d'impact sur cette réalité. Je crois qu'il faudrait... Parce qu'il y a aussi un autre élément que je voudrais souligner, c'est que l'armement nucléaire, c'est la négation de toutes les valeurs éthiques qui fondent la civilisation. Bon. Et donc, toute spiritualité devrait être en opposition totale par rapport à l'arme nucléaire. Or, justement, actuellement, et c'est un facteur universel dans le monde actuel, les religions elles-mêmes, finalement, souvent justifient la violence. Bon. La question est une question d'orthographe. Comment écrivons-nous le Dieu désarmé? Bon. Il y a deux manières de l'écrire, désarmé en un seul mot, qui est la bonne orthographe, ou désarmé en deux mots. Le problème, c'est que les religions ont fait une immense faute d'orthographe en écrivant le Dieu désarmé en trois mots, et que c'est vrai qu'actuellement, notamment l'islam, alors ça a été vrai du christianisme pendant longtemps, maintenant c'est vrai essentiellement de l'islam, et c'est tout de même quelque chose de tout à fait désespérant que les religions qui devraient elles-mêmes, quelle que soit notre croyance personnelle, affirmer le respect de l'homme et de tous les hommes, à tous les niveaux, finalement, se taisent et sont complices.
Jacques Semelin, je fais un petit retour en arrière historique. On parlait de Jean Jaurès tout à l'heure. Mm-hmm. Jaurès avait mis au point une stratégie pour empêcher la guerre qui était à la fois simple et très utopiste. C'était de se baser, de miser sur l'union des peuples, l'union du prolétariat et sur la grève générale des travailleurs en France et en Allemagne pour empêcher la guerre. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette idée-là et de l'idée qu'il faut d'abord s'adresser à la conscience des peuples pour empêcher la guerre?
Si j'ose dire, mon Dieu, pas grand-chose. Jaurès avait aussi une autre conception de l'armée, faut pas l'oublier non plus. Il appelait ça l'armée nouvelle. Mais cette idée de la solidarité entre les peuples, je crois que qui la reprend aujourd'hui, on peut la prendre du côté de l'écologie, on peut la prendre du côté de la justice, du côté de la défense des journalistes, par exemple, comme en Turquie, mais on ne la voit pas dans le domaine de la paix. Ça semble être un impensé. Alors moi, je trouve intéressant ce que fait le mouvement de la paix, au moins on en parle. Quand je disais il n'y a pas de mobilisation, mobilisation de masse. Vous mobilisez, mais ça va. Je suis d'accord avec Jean-Marie Muller, ça va pas déboucher. Mais c'est bien qu'on en parle. Hein. Pour me raccrocher un peu à la dernière discussion sur la question de la religion, on a au moins dans notre héritage culturel, philosophique, la pensée de René Girard. Qui a quand même développé une réflexion approfondie sur la violence au point qu'il parle de la possibilité d'une apocalypse du fait de la guerre nucléaire, et c'est pas souvent admis et réfléchi, y compris chez les commentateurs de René Girard, cette idée que les hommes sont aujourd'hui acculés à la réconciliation. Alors quand il parle de réconciliation, eh bien, il évoque la question de la non-violence, voyez. Et cela, il le fait à travers sa pensée sur la religion, sur la violence sacrificielle, etc. Donc, que dire de notre temps? Je pense qu'on est dans un moment très, très, très pathétique, très, je dirais tragique, puisque cette possibilité d'une destruction nucléaire, elle est permanente. Et on fait comme si elle n'existait pas. Et en même temps, à notre échelle individuelle, c'est ce que je voulais aussi dire tout à l'heure, vous avez des gens qui veulent être acteurs de paix dans leur société, dans la vie quotidienne. Faut quand même pas les oublier, tout cela. Et je sais que beaucoup de jeunes sont engagés dans cette perspective. Ils vont pas du tout se définir comme des pacifistes, mais ils voudront travailler pour la paix. Ça va donner du sens à leur vie. Et qu'est-ce que ça va être pour eux, travailler pour la paix? Ben, ça va être susciter des médiations entre, avec des, ou des, ou des, ou une aide à des populations défavorisées qui pourraient basculer dans la violence. Alors on le voit pas ça, c'est pas votre sujet sur le pacifisme d'une certaine manière, mais un petit peu quand même, vous voyez, comment être acteur de paix aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines qui sont déchirées, on le sait, par de fortes injustices, et puis par des peurs énormes sur les étrangers, etc.
Et déchiré, Jacques Semelin, par un phénomène qui est très prégnant en ce moment, qui est l'action terroriste et le recours à de l'ultra-violence, si l'on peut dire. Mmh. Parce que si on peut dire que la guerre utilise la violence pour arriver à ses fins, le terrorisme, quelque part, considère un peu la violence comme une fin en soi. Qu'est-ce que ça change, ça, de l'autre côté, du côté des militants de la paix, quand on a en face des gens qui utilisent la violence comme une fin en soi?
Oui, mais Jean-Marie Muller. Le terrorisme n'est pas la guerre. La guerre, c'est l'affrontement de deux armées reconnues, avec une référence à un État. Le terrorisme, ce sont finalement, les terroristes, ce sont des individus la plupart du temps, même si il y a parfois une organisation. Mais on ne va pas tuer tous les terroristes. Bon, par exemple, l'arme nucléaire n'a aucun impact sur l'action terroriste. Les terroristes se rient de l'armement nucléaire. Alors, je crois qu'il faut aussi montrer la dimension politique du terrorisme et travailler à ce niveau-là. Je voudrais prendre un exemple précis. Le problème, par exemple, palestinien. Bon, c'est un des problèmes majeurs qui risque à chaque moment de se pervertir en guerre et en violence. Or, là encore, il y a une action possible non violente, c'est la non-collaboration, la non-coopération avec l'État d'Israël, notamment dans la vente des produits agricoles qui sont cultivés en Palestine. C'est l'action BDS, boycott des investissements sanctions, refuser d'acheter, notamment en France, des produits qui viennent, encore une fois, des terres colonisées par Israël. Israël est très attentif à ça. Et je crois que c'est un mouvement international qui a été initié par des Palestiniens d'eux-mêmes, qui se réclament très clairement de la non-violence. Donc, toutes ces questions aussi de désobéissance civile, parce que, malheureusement, l'État français, de tout temps, pratiquement, a été globalement solidaire de l'État d'Israël, et récuse actuellement l'action BDS, l'action de boycott. Et on pourrait même se retrouver devant des tribunaux parce que...
Alors c'est effectivement une question qui mérite à elle-même un débat, oui. Un débat de 45 minutes qui s'inscrit, comme vous le dites, dans les actions non violentes. Je voulais faire réagir quand même Edith Boulanger.
Oui, je réagis parce que, M. Semelin, vous avez dit il n'y a plus de solidarité entre les peuples.
Et non, pourtant, mais j'exagère.
Il me semble que j'ai entendu ça. Oui. Et vous avez dit aussi, vous avez insisté sur le fait de la richesse des différents jeunes qui veulent œuvrer pour la paix, n'est-ce pas, de différentes façons. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi justement la presse ne relaie que Feita à la télévision, c'est horrible, n'est-ce pas? C'est toujours les catastrophes. La fabrique de l'ennemi, du sensationnel, c'est vraiment aux antipodes de la conception de ce que l'on veut, nous, pour informer. Nous voulons mettre en avant, discuter des valeurs, des idéaux mis en œuvre par la Charte des Nations Unies. Ça, c'est les valeurs à défendre, à promouvoir. Pourquoi ne parlons-nous jamais de la culture de la paix? Les jeunes s'y retrouveraient, les jeunes et les vieux d'ailleurs, se retrouveraient, parce que franchement, la culture de la paix, c'est des actions qu'on peut mener, que les jeunes veulent mener. L'éducation à la paix, nous on fait des conférences, par exemple, à l'intérieur des primaires, lycées, etc. Et je signale que le 20 septembre, à l'occasion du 21 septembre, puisque c'est la journée internationale de la paix qui n'est pas assez médiatisée. On parle beaucoup de la journée d'Alzheimer, très bien, mais c'est aussi la journée internationale de la paix.
Donc, le 20 septembre, eh bien, on va faire une conférence à l'Université Paris-Dauphine, puis à la Sorbonne, pour discuter de ce problème-là, à l'initiative de jeunes, et des jeunes qui ont été stagiaires au Mouvement de la Paix, qui ont travaillé, notamment sur le livre Planète Paix. On a un mensuel, donc il y a des choses qui se font. Donc, je vais vous en offrir un. Il y a notre mensuel qui n'est pas assez diffusé. Il n'y en a que 3000, c'est sûr. Mais on le diffuse lors de la semaine de la presse, dans tous les établissements qui le demandent. Il n'y en a pas assez. Mais on le maintient avec des bénévoles. Et donc, ça marche quand même. Donc, je cite le deuxième point de la culture de la paix. Bon, promouvoir le développement économique et social durable. Ça, il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent là-dedans. L'égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur, je crois que vous avez travaillé sur les génocides et les viols des femmes, notamment en RDC. Personne n'en parle. 200 000 femmes qui ont été violées pendant 20 ans en RDC. Et il y a Maître Réti qui cherche à tout prix à ce qu'elles soit reconnu, qu'on puisse au moins inculper les criminels qui ont fait ça. Donc, vous voyez, il y a des gens qui se retrouvent dedans. Il y a des femmes qui peuvent travailler dans l'égalité.
Et est-ce que ça veut dire, Boulanger, que c'est peut-être aussi une question de terme, c'est-à-dire aujourd'hui on parle de paix, de pacifisme, toutes les initiatives que vous citez aujourd'hui, elles se raccrochent peut-être aussi à d'autres branches, le développement durable, l'égalité homme-femme, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a dilution. Jacques Semelin.
Elle a tout à fait raison, parce que c'est ce qu'on appelle la paix structurelle. Ça renvoie à John Galtung, si vous voulez, mais je me reconnais dans ce que vous dites, et on est proche de ce point de vue-là, puisque je parle des acteurs aussi impliqués dans ces différents domaines. Je voudrais répondre sur la question du terrorisme, parce que c'est très intéressant de mettre en perspective ces deux
rapidement,
extrêmes.
Rapidement, parce qu'on est presque à la fin de l'émission, Jacques Semelin.
Écoutez, d'un côté, l'action terroriste, elle vise à susciter chez nous de la peur et de la division entre différentes catégories de population, de telle sorte qu'ils espèrent créer une sorte de guerre civile dans notre pays. Eh bien, tout ce qui va contribuer, à l'inverse, à créer du lien social, à créer des rapports de confiance avec ces populations qui sont visées, est de nature à prévenir la violence, et donc peut être considéré comme une promoteuse de paix.
Jean-Marie Muller, vous aurez le mot de la fin.
Oui, je suis bien d'accord avec toi, Jacques, sur cette question-là. Et je crois qu'en même temps, justement, là aussi, les faits montrent qu'il y a une certaine mobilisation citoyenne. Par exemple, autour de l'assassinat du père Hamel, il y a eu toute une mobilisation de gens qui refusent justement d'entrer dans la haine et qui pratiquent la réconciliation au jour le jour avec également les musulmans. Donc, en même temps, je crois qu'il faut bien voir toutes les menaces qui pèsent sur notre société et puis voir aussi tout de même les lueurs d'espoir, d'espérance dans l'action citoyenne.
Et puis il y a eu aussi les mobilisations en 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les artistes avant le générique, peut-être que quelques secondes. Alors, les affiches, c'est jamais très radiophonique. Mais donc Coco, une des dessinatrices de Charlie Hebdo, donc Journée internationale de la paix, on voit une colombe, la paix, bordel, c'est trop demandé, point d'interrogation. Voilà, je cite les propos de la colombe. Et si vous voulez, on fera une photo et puis on la mettra sur notre site internet. Voilà, je voulais vous faire écouter quelques notes de IAM, arme de destruction massive, mais bon, tant pis. C'est l'heure de rendre l'antenne. Merci infiniment. Merci à tous les trois, Jacques Semelin, Jean-Marie Muller et Edith Boulanger, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir participé à cette discussion. Les références de vos ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, c'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Pierre Testard, Philippine Lebray, Cédric Fuentes, Isolte Sicard et Juliette Montilly, réalisation Romain Masson, prise de son Yanis Djoudad, droit d'auteur Elisabeth Gornescoto.